Jason Pickett et son célèbre Land of Thousand Dances, un morceau pas mal bidouillé dans la bande-annonce de cette série Lovecraft Country que nous attendons avec impatience. On passe tout de suite à l'interview de Cindy Canvet réalisée en novembre dernier aux Utopiales de Nantes.
Nous l'avions découvert il y a 2 ans dans ce même lieu, en 2017 donc, et elle était là comme étant la petite stagiaire d'ActuSF. Bah oui, ActuSF a découvert ton talent et l'a reconnu. Tu as été depuis illustratrice de Je suis Providence, la biographie de Lovecraft, et tu es celle qui s'occupe de l'illustration du prochain roman graphique d'Alan Moore, aux éditions ActuSF. Mais avant tout ça, avant tes lettres de noblesse, quel est ton parcours ?
J'ai fait des études un peu, on va dire, expérimentales au début. J'ai commencé sur une filière plutôt scientifique avant de vraiment me rediriger vers ma passion du dessin. Donc j'ai fait des allers-retours, enfin des petits détours, avant d'arriver du coup en 2013 à l'ENAI, qui est une école à Chambéry d'art et de design. J'avais commencé par tenter les métiers du design, notamment design d'espace, avant de me rendre compte qu'avec l'année préparatoire qui est nécessaire pour cette formation, en fait, je m'éclatais beaucoup plus sur tout ce qui est plutôt illustration, BD, etc. Donc, sur le dernier revirement de situation, j'ai basculé sur une formation qui s'appelle le cycle supérieur au métier de l'image dessinée, qui délivre un diplôme. Continuer dans les longs noms où c'est un titre de dessinateur en images fixes et animées. Suite à ces études-là, j'ai commencé à... pour être exact, j'ai fait mon tout dernier stage d'études chez ActuSF. Et à ce moment-là, ils travaillaient sur la mise en place d'un crowdfunding pour financer la biographie, la traduction de la biographie de Lovecraft par ST Joshi. J'étais plutôt sur un stage de graphisme, donc j'ai fait un peu de visuel pour la campagne de crowdfunding, et à ce moment-là il y avait besoin du coup de visuels on va dire non officiels, mais des premiers visuels pour avoir une idée du livre final qui allait sortir presque 2 ans plus tard. Et en travaillant dessus, on s'est mis d'accord et ActuSF m'a proposé du coup de garder les visuels que j'avais fournis à ce moment-là. Je les ai un peu retravaillés depuis, hein, mais globalement ça s'est passé comme ça. Et donc de ce fait, progressivement, j'ai continué à évoluer plutôt dans le domaine de l'édition avec des couvertures de livres. Comme c'était à la sortie des études, au début j'ai commencé à faire doucement avec ces couvertures, et là maintenant depuis janvier je fais vraiment ça à temps plein, et du coup je me suis engagée sur des projets un peu plus conséquents avec des livres illustrés, une nouvelle illustrée, un essai illustré, voilà, des choses dont on va sûrement bientôt parler.
Tu as récemment été illustré une trilogie de fantasy, un auteur qui ne tarie pas d'éloges sur ton travail, et tu as cette reconnaissance des personnes qui ont déjà travaillé avec toi et qui ne jurent plus que par toi. Je pense notamment à Pierre Léauté et son Aptens Assassin. Est-ce que tu as d'autres auteurs comme ça qui te demandent spécifiquement, ou c'est les maisons d'édition qui vont te demander quelque chose, ou les salons, puisque nous sommes salons et que nous t'avons demandé une affiche?
Alors juste pour Pierre, je précise, c'est pas la trilogie que j'ai illustrée, hein. C'est vraiment le deuxième et le troisième tome, et même si on en a beaucoup discuté tous les deux, ouais, au départ, c'est de l'initiative de l'éditeur, hein, on est bien d'accord. En général, c'est vraiment l'éditeur qui vient vers moi. Il y a eu une exception avec une autrice française, mais ses livres sont édités au Québec, qui, elle, a fait le choix de travailler avec moi vraiment pour une trilogie et un autre projet qui n'est pas encore sorti. Et donc, qui est Diane Darren pour le nom. Voilà, mais en général, j'ai plutôt tendance à travailler directement avec les éditeurs.
D'accord. Bon. On passe au portrait chinois ?
Oui.
Alors, forcément, parce que je suis très taquin, s'il y avait une œuvre d'art que tu aurais dû réaliser, ça serait laquelle ?
Juste pour dire l'image qui me vient tout de suite en tête, je sais pas pourquoi, peut-être parce que je l'ai beaucoup étudiée. En cours, c'est peut-être le radeau de la Méduse. Oui, on va dire ça parce que c'est histoire de répondre rapidement dans le.
Très bien. L'association Imaginaire est une association extrêmement riche, je ne sais pas si tu le sais, d'ailleurs elle se paye un artiste de renom pour faire son affiche. Et nous t'offrons des vacances où tu veux, quand tu veux. Est-ce que tu as un endroit où tu veux aller, une époque où tu veux aller?
Juste pour parler d'un, entre guillemets, d'un fantasme d'enfant, c'est l'Égypte antique.
Une raison particulière? Juste le fantasme d'enfance?
Pour l'architecture, la mythologie, ça va comprendre voilà, comment... ou même l'Antiquité, enfin, c'est l'Antiquité en général, c'est vrai qu'il y a l'Égypte, mais il y a aussi la Grèce, voire vraiment... En fait, c'est juste impressionnant de voir ce qui nous reste de ces périodes-là, et de voir si on avait la possibilité d'aller voir vraiment sur place, sur le moment, comment c'était, comment ils construisaient tout ça, comment ils géraient leur société... La culture, et ce serait non.
Ouais. D'accord. Comme je te disais, c'est toi qui vas décider de la musique finale pour cette interview. Laquelle as-tu choisi?
Without My Signature. Mmh. Puis pour citer un titre, un de mes préférés, c'est vraiment Oh, We Are Dead.
Eh bien écoute, merci beaucoup Cindy Canevet. Ça a été un vrai plaisir de pouvoir échanger avec toi.
Et merci
puis,
à vous.
On se retrouve dans 6 mois.
Ah, dans 6 mois.
science, on n'y comprend rien. Avant, il y a plus de 2000 ans par exemple, tout était simple. Quand Empédocle parlait des quatre éléments, tout le monde pouvait voir de quoi il s'agissait. On marchait sur la terre, on pouvait se faire mouiller par la pluie, on sentait l'air sur son visage, et il ne fallait quand même pas mettre trop sa main au feu. La pluie tombait parce qu'elle avait tendance à vouloir retrouver son emplacement naturel à la surface de la terre, les lacs, les mers, etc. Au cours des siècles, tout un tas de chercheurs se sont posés tout un tas de questions. Mais chaque découverte pouvait être appréhendée par ceux qui avaient un minimum de culture et pas seulement par des mathématiciens de haut niveau. Il a fallu moins d'un siècle pour que tout un chacun se familiarise avec la loi d'attraction des corps émise par Isaac Newton. On ne pouvait pas voir la force d'attraction, ce qui pouvait rester un mystère, mais quand on se prenait une pomme sur le crâne, on comprenait bien le principe. Ça a vraiment commencé à se compliquer au début du XXe siècle, avec l'abbé Lemaître et sa théorie de l'atome originel, appelée plus tard Big Bang par Fred Hoyle par dérision car elle n'y adhérait pas, avec Einstein et ses théories de la relativité, restreinte et généralisée, avec les théoriciens de la physique quantique. Je vais essayer de vous expliquer avec ces trois exemples pourquoi la science est tellement loin de la compréhension de l'être humain d'aujourd'hui qu'elle est devenue un objet de suspicion dans le meilleur des cas, et dans le pire des cas, un acte de foi qui fait dire à certains « la chloroquine, moi j'y crois ». Commençons par la théorie du Big Bang. Il s'agit de l'expansion de l'univers qu'on a coutume parfois de modéliser par la surface d'un ballon qui gonfle. Tous les points se trouvant dessinés à la surface du ballon s'éloignent les uns des autres, tout comme les galaxies de notre univers. Cette représentation possède un énorme défaut. Elle vous fait croire que le ballon se trouve dans quelque chose, qu'il possède un intérieur et un extérieur. Du coup, vous vous dites, dans quoi notre univers gonfle-t-il ? Dans rien, bien évidemment, sinon ce ne serait pas l'univers. Revenons à notre ballon. Pour vous représenter correctement la chose, il faudrait que vous soyez capable de vous représenter la surface du ballon à l'exclusion de toute autre chose. Mathématiquement, ce n'est pas un problème, mais mentalement. Maintenant, si vous revenez à nos trois dimensions spatiales, c'est une autre paire de manches. Si pour faire le parallèle avec le ballon, vous imaginez que notre univers est courbé. Une parenthèse pour indiquer que les hypothèses à ce sujet ne sont pas définitives. On avait récemment considéré notre univers comme plat, mais on en est un petit peu revenu. Je n'approfondis pas, ça nous mènerait trop loin. Donc, s'il est courbé positivement, comme le ballon, cela veut dire que si vous partez tout droit dans une direction, n'importe laquelle, vous reviendrez à votre point de départ. Bon. Il faudrait sans doute aller très vite, mais c'est l'idée. Et cet univers-là est en expansion. Il gonfle. Dans rien. Il gonfle, c'est tout. C'est la quantité d'espace qui augmente. Bon, là, j'ai déjà perdu la moitié des auditeurs de Radio G, 101.5, tout le monde sait ça. Hein. L'expansion de l'univers est prise en compte dans tous les domaines de l'astrophysique. Je ne vous raconte pas les calculs. Mais l'homme de la rue, enfin, les confinés, enfin, même les femmes, hein, si, n'ont jamais vu cette expansion. Et puis, prof Patrice, ça ne change pas notre quotidien. J'en conviens, quoique... Passons maintenant à la relativité. Je ne vais pas m'étendre sur ces différents aspects, mais je voudrais vous faire ressortir la façon dont cette relativité interprète la gravité. On a vu, avec Newton, qu'une force invisible attirait tous les objets les uns vers les autres. Cette force dépend de la masse des objets et de leur distance. Les calculs fonctionnent pour les aspects de la vie quotidienne, enfin presque. Einstein, lui, nous dit que la masse d'un corps déforme la structure de l'espace-temps. Les lignes droites deviennent des courbes et les objets suivent ces courbes comme la Terre autour du Soleil. Quand l'objet est trop proche de la masse, il tombe dans le puits de gravité créé par cette masse. Fini la force de Newton qui attire avec ses petits bras musclés. Mais je vous l'accorde, c'est très difficile de vous représenter mentalement ce puits de gravité. Comme je vous l'ai dit, pour la plupart des choses ordinaires, Newton fonctionne très bien. Il y a cependant au moins une chose de votre vie courante qui ne fonctionnerait pas si l'on appliquait Newton au lieu d'Einstein. Le GPS. Bah oui, la lumière n'a pas de masse, mais elle suit les courbes de l'espace-temps déformées par les autres masses. Elle ne va pas en ligne droite. Si l'on n'en tient pas compte, les calculs du GPS sont faux. 1 kilomètre d'écart. Ennuyeux, non ? Et la physique quantique. Quand on a compris qu'il y avait des atomes avec un noyau fait de protons et de neutrons et autour duquel gravitent des électrons... Stop ! Bah non, c'est pas ça. Un atome façon système solaire en miniature, ça ne fonctionne pas. D'ailleurs, les particules qui constituent les atomes ne sont pas des corpuscules. Enfin si, elles ont des propriétés corpusculaires, mais aussi des propriétés ondulatoires. De plus, elles ne sont pas vraiment à un endroit donné. Il y a juste une probabilité plus ou moins élevée de les rencontrer à certains endroits. Bref, essayez de vous représenter votre environnement. Vos sens vous disent que c'est du solide. Si je tape du poing sur la table, je ne passe pas au travers, et ça peut faire mal, sauf si je m'appelle Tony Stark. Pourtant, les calculs à base de fonctions d'onde et les expériences qui vont avec nous indiquent que tout cela est composé d'énormément de vide ainsi que d'objets qui n'ont pas simultanément les propriétés de vitesse et de position, qui peuvent parfois être dans plusieurs états en même temps, qui se comportent aussi bien comme des vagues dans la mer que comme des balles de fusil. Mentalement, ok, vous avez abandonné. Je vous le disais en commençant, la science dans ce qu'elle a de plus extrême est tellement loin de ce que peuvent percevoir nos sens qu'on n'y adhère plus à moins d'être spécialiste ou amateur un minimum éclairé. Étienne Klein, physicien et philosophe des sciences, rapportait un jour cette anecdote. L'un de ses élèves lui disant « Votre théorie de la relativité, je ne la sens pas ». Au panier les calculs, les expériences, les modélisations. Chacun se sent libre d'adhérer ou pas à une théorie, non pas en fonction de critères objectifs, mais suivant son humeur, son ressenti, ou ce qui est pire, ses croyances philosophiques ou religieuses. Il en est de même pour la médecine, sujet ô combien épidermique ces derniers temps. Paradoxalement, on ne fait plus confiance à la science, mais dans certaines situations, on voudrait qu'elle réponde à tout, tout de suite. Selon Karl Popper, ce qui n'est pas réfutable n'est pas scientifique. J'adhère à cette idée. Prenons l'existence de Dieu. Aucune démonstration ne confirme ou n'infirme cette existence. C'est une question de foi, une question personnelle qui n'a rien à voir avec la science. L'abbé Lemaître lui-même s'est bien gardé de mélanger ses recherches scientifiques avec ses croyances. Il en avait été un temps accusé, mais on en est revenu. Il nous faut donc bien admettre que la science, compréhensible ou incompréhensible, n'est pas infaillible, qu'elle est évolutive, que son évolution prend du temps. Une théorie peut n'être valable que dans un domaine donné et pour un temps donné. Les scientifiques étant des êtres humains ne sont pas non plus à l'abri des passions humaines, des erreurs. Cependant, soyons sûrs d'une chose, la science, tout comme la culture, est un élément indispensable à l'ouverture d'esprit, indispensable à la liberté donc.
Élève la bêlure. Vous êtes premier en histoire de France. Eh bien parlez-moi de Vercingétorix. Quelle fut sa vie, sa mort, sa naissance? Répondez-moi bien et vous aurez 10. Monsieur l'inspecteur, je sais tout ça par cœur. Vercingétorix, né sous Louis-Philippe, bat-il les Chinois un soir à Roseveau. C'est lui qui lança la mode des slips et pour sa bourrue sur un échafaud. Le sujet est neuf, bravo, vous aurez neuf. On n'est pas des imbéciles, on a même de l'instruction. Au lycée papa, au lycée papille, au lycée papillon. Élève Poudaron,
présent.
Vous connaissez bien l'histoire naturelle. Eh bien, dites-moi ce qu'est un ruminant. Et puis citez-moi, et je vous rappelle que je donne 10 quand je suis content. Monsieur l'inspecteur, je sais tout ça par cœur. Les ruminants sont des coléoptères, tels que la langouste et le rat à dégoût. Le cheval de bois, le poule à belle-mère, qui bat sur sa proie et puis cavale tout. Très bien répondu, je vous donne 8, pas plus. On n'est pas des imbéciles, on a même de l'instruction. Au lycée papa, au lycée papy, au lycée papillon. Élève Troufigne,
présent.
Vous connaissez bien la géographie. Eh bien, citez-moi les départements, les fleuves et les villes de la Normandie, ses spécialités et ses représentants. Monsieur l'inspecteur, je n'ai tout à part que... C'est en Normandie que coule la Moselle, capitale Béziers et chef-lieu Toulon. On y fait le caviar et la mortadelle, et c'est la gmourue qui libère des sons. Bravo mon ami, je vous donne 9,5. On n'est pas des imbéciles, on a même de l'instruction. Au lycée papa, au lycée papy, au lycée papillon. Élève Cancrela,
présent.
Vous êtes le dernier, ça me rend morose. Je vous vois dans la classe, tout là-bas, dans le fond. En philosophie, savez-vous quelque chose? Répondez-moi oui, répondez-moi non. Monsieur l'inspecteur, moi je ne sais rien par cœur. Oui, je suis le dernier, je passe pour un cuistre. Mais je m'en fous, je suis près du radiateur. Et puis comme plus tard, je veux devenir ministre. Moi je serai calé, plus j'aurai de valeur. Je vous crie bravo, mais je vous donne zéro. On n'est pas des imbéciles, on a même de l'instruction. Au lycée papa, au lycée papy, au lycée papillon.
Georges Huss et son lycée papillon sur le 101.5. On avait commencé cette émission par une nouveauté musicale, et ben on va terminer de la même façon avec un extrait de la bande originale de la série télévisée 000 par Mogwai, qu'on trouve en téléchargement à prix libre sur leur page Bandcamp. Restez à l'écoute de Radio G, on se retrouve dans 2 semaines, même heure, même adresse.